Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Par les temps qui courent. Une heure, un artiste, tous les soirs. Ce soir, nous sommes ravis de recevoir Jelimir Jinnik, réalisateur.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bouddha, pépé, tépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Lecheux, avec Jelimir Jinnik.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
La vie que nous vivons est la seule vie que nous ayons et il s'agirait de ne pas mourir en se méprisant. Voici une considération toute personnelle. Jelimir Jinnik, c'est une phrase que vous prononciez il y a peu dans une conférence et qui figure dans le court-métrage commandé par le Centre Pompidou sous la forme d'une question. Où en êtes-vous, Jelimir Jinnik? Une considération toute personnelle, mais aux implications finalement très collectives, donc très politiques, comme beaucoup de votre cinéma. Ce même Centre Pompidou consacre une grande rétrospective à votre cinéma, à ce que l'on a appelé la nouvelle vague du cinéma yougoslave dans les années 60, de Black Wave. Pour avoir votre premier long métrage en 1969, Early Works, dans son titre anglais, jusqu'au tout dernier long, The Most Beautiful Country in the World. Et en passant par les courts-métrages, une masterclass, et puis j'ai cru comprendre que vous étiez quasiment de toutes les séances en présentation. Tout ça jusqu'au 12 mai, c'est à Paris. Bonsoir à vous, Jelimir Jinnik, et bienvenue.
And welcome.
Et bonsoir à vous, Marguerite Capelle, qui est la voix française du réalisateur que nous recevons ce soir.
Bonsoir.
Peut-être dire que c'est la première grande rétrospective, je crois, consacrée à votre travail ici en France. Vous avez, au long de toutes ces années de cinéma, eu quelle relation avec la France, les spectateurs, les spectatrices français, peut-être le cinéma français? C'est une question un peu vaste, mais comme ça, quel lien avec la France pour vous, Jelimir Jinnik?
Well, from very young years of mine.
Et bien, depuis tout jeune, alors que je n'étais encore qu'au lycée, à l'époque où la nouvelle vague était en train d'apparaître, la nouvelle vague française au cinéma. En Yougoslavie, c'était un des seuls pays socialistes dont les frontières étaient ouvertes et on voyait ces films. On les voyait parfois deux semaines après la première à Paris. C'était important pour nous et le langage cinématographique était en train de changer. Pour nous, les jeunes, c'était révolutionnaire. Parce qu'on regardait des films d'Hollywood avant et on y voyait une magie, on y voyait un aspect de rêve, mais il y avait aussi un investissement incroyable et on ne pensait jamais que nous, on serait capable d'avoir une carrière de cinéma de cette façon-là. Et puis quand ces nouveaux films sont apparus, on s'est dit « Ah, mais il y a peut-être des possibilités aussi dans nos rues, en bas de chez nous, dans nos villes, dans nos villages. »
Avoir
le sentiment qu'on est peut-être exactement comme au milieu d'un studio, mais dans ces rues, comme les Français le faisaient. Et d'une certaine façon, le cinéma était en train de s'ouvrir aussi au cinéma vérité, au film documentaire, ce qui a été pour moi un grand encouragement, le plus important à mes yeux. Et donc j'ai commencé par les ciné-clubs avec ma génération, avec d'autres cinéastes qui m'ont précédé. On a commencé à faire des films courts, format ciné-club, très inspiré en fait par ce cinéma vérité, cette école du cinéma vérité. À la même époque, cette politique d'ouverture culturelle à la fin des années 50 et dans les années 60 qu'on avait en Yougoslavie était aussi très influencée, pas uniquement par la culture française, du théâtre au cinéma, en passant par la musique. Elle était aussi influencée par le fait que dans les groupes dirigeants, les hauts dirigeants du communisme autour de Tito, après la rupture avec Staline en 1949, il y avait beaucoup d'intellectuels de gauche qui occupaient des postes très importants, ce qui signifie que les directeurs de théâtre étaient des gens qui avaient été à l'école avant la Seconde Guerre mondiale à Paris ou aussi les combattants antifascistes de la guerre d'Espagne, tous ces gens qui étaient sortis des universités françaises et qui étaient passés par les partis de gauche français. Et ces gens-là ont beaucoup aidé le communisme yougoslave à prendre ses distances, à la fois culturellement, par rapport au réalisme socialiste soi-disant des soviétiques. Et donc, dans ma jeunesse, il y avait non seulement une atmosphère d'ouverture, mais aussi l'espace, la place nécessaire pour l'expérimentation culturelle, pour une approche critique aussi. Et à cette époque-là, le socialisme et les partis yougoslaves avaient proclamé dans son parti que tout ce qui avait déjà été créé devait être d'une manière ou d'une autre amélioré, transformé par une nouvelle énergie créative. Et donc il y avait cet espace vraiment offert à la jeune génération pour venir sur le devant de la scène. Donc, dans ce contexte, en très général, des générations précédentes de réalisateurs, comme Javel ou Petric, avaient déjà participé et pris leur place sur cette scène. Et donc, pour ma génération, ça a été relativement facile de surgir avec notre propre voix. Et je me souviens aussi avoir parcouru Belgrade à l'époque. On trouvait souvent à cette époque-là des intellectuels européens, en particulier les voix critiques, les voix engagées, comme un Sartre ou un Picasso, qui faisaient même les affiches de certains films yougoslaves.
Est-ce que vous savez si ou comment vos films étaient vus ou partagés en Europe ou à Paris ou en France, puisque je le disais en introduction, Jelimir Jelinek, on va dire 1969, votre film Travaux précoces, Ours d'or à Berlin, et puis ensuite toute une filmographie, 50 ans de films. Est-ce que vous savez comment c'est vu en France?
À l'époque, on avait aussi une communication des cultures. J'étais jeune, je lisais tous ces magazines étudiants. En 1968, ils étaient pleins d'informations et pleins d'articles sur ce qui se passait dans les mouvements étudiants français, mais aussi aux États-Unis, aussi en Allemagne. Et donc, nos manifestations étudiantes qui ont éclaté en fait en juin 68, avait beaucoup à voir avec ce qui se passait en Europe et ce qui se passait dans le monde. Mais ce qu'il y avait de très spécifique dans notre situation, c'est que nos étudiants ne s'opposaient pas uniquement au capitalisme et pas forcément non plus contre le socialisme. Ce qu'ils réclamaient, c'était autre chose. Ils attendaient que le socialisme et le communisme réalisent ces promesses, en reviennent vraiment aux fondamentaux de ces idées-là, des idées qui avaient été exprimées dans les années 50, 60, après la rupture avec Staline. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé quelque chose de très ouvert, un socialisme démocratique et ouvert. Et donc la phrase principale employée par les étudiants, c'était l'opposition à la bourgeoisie rouge, c'est-à-dire s'opposer à la bureaucratie qui essayait d'une certaine façon de contrôler
final say
de contrôler la société et d'avoir le dernier mot sur absolument tout ce qui se passait. Malgré le fait que nous ayons des lois qui affirmaient que les travailleurs pouvaient participer à des conseils, qui pouvaient réellement prendre des décisions de façon collective. Et nous, les cinéastes, nous n'étions pas employés par des studios de cinéma. Comme dans tous les autres pays socialistes, nous étions des travailleurs indépendants. Et les autres artistes, comme les compositeurs, les peintres, ils nous expliquaient que c'est le système français que nous appliquions, en fait, dans notre façon de vivre et notre façon de travailler en tant qu'artiste. Quelque chose de très stimulant, puisque chacun doit continuer à travailler et s'occuper de sa carrière sans être parasité, sans se retrouver à attendre quelque part, soi-même comme un parasite, les financements qui viennent de la bureaucratie.
Je pense que c'est très important pour nous que vous plantiez ce décor-là, Jelimir Jilnik, pour comprendre dans quel contexte, en 1971, vous réalisez Black Film. Vous disiez à l'instant, vous décriviez à l'instant une génération qui attendait des idéologies, qu'elle revienne à ses propres promesses et qu'elle demande de l'action. On va écouter l'introduction de ce film.
Novi Sad, petak, 29. januar 1971. godine, sada je oko 3 sata ujutru. Evo ovih 6 ljudi našli smo da nemaju gde da spavaju noćas i u ovom dokumentarnom filmu pokušat ćemo nekako da im nađemo smeštaj. Jel' krupno?
Jeste.
Ja sam Želimir Žilnik, 28 godina, 72 kile, 166, 167 visok, pravnik po zanimanju, bavim se filmom, imam jednu ženu, jedno dete, stan 48 kvadrata, dvosobni. Vrlo nam je dobro, prosečni prihodi 200-300 hiljada mesečno. Ovakav jedan film sam već pre godinu dve pravio, međutim ovih ljudi ima stalno.
On est en 1971, donc, et vous présentez votre situation. Je suis avocat, je suis cinéaste, j'ai une femme, un enfant, je dispose d'un appartement de telle superficie, et des hommes, des êtres humains dorment dehors. Comment vais-je faire ? Vous invitez plusieurs hommes à venir dormir dans votre salon, et pendant le temps qu'ils profitent du séjour chez vous, vous sortez dans la rue et vous posez des questions extrêmement concrètes. Comment résoudre ce problème de la cité, ce problème collectif ? Comment le résoudre collectivement ? Quel souvenir vous gardez du tournage de ce film-là, Jelimir Jilnik ?
Well, moment was actually more complicated.
Ce moment était en fait plus complexe. Parce qu'il y a cinq minutes, je parlais de cette atmosphère extrêmement ouverte en matière de production culturelle et de créativité. Mais à la même époque, nous vivions dans un système de parti unique également. Et dans ce système, certains événements qui se produisaient dans l'ensemble de la communauté socialiste avaient une influence sur nous. Et l'un des événements les plus perturbants et dangereux, une des voies les plus dangereuses, c'est pendant l'été 1968, donc après les manifestations étudiantes, deux ou trois mois avant que je commence à réaliser mon premier film, et ce moment a été l'occupation par les soviets et d'autres pays socialistes de la Tchécoslovaquie, à l'encontre de ces Tchécoslovaques qui voulaient faire exactement la même chose que les Yougoslaves, aller dans le même sens. Nos dirigeants, Tito, etc., avaient beaucoup communiqué avec Dubček, beaucoup échangé avec lui, et Dubček avait dit nous aimerions essayer aussi de vivre avec des frontières ouvertes, avec davantage de liberté, de liberté personnelle, mais aussi artistique. Et ceci a été vraiment stoppé, empêché par l'occupation soviétique. La Yougoslavie n'a pas pris parti, au contraire, à l'automne cet, cet été-là, puis l'automne, nous, avions, nous craignions en fait d'être les prochains à être occupés. Donc nous, les jeunes hommes, on nous avait demandé d'aller à la frontière, en Hongrie, en Roumanie, parce que les armées soviétiques s'apprêtaient à envahir notre pays. Donc il y avait énormément de tensions, mais c'était aussi un moment qui était plein d'espoir. On avait l'espoir de se défendre, de parvenir à rester, à garder notre différence. Et avoir une autre version du socialisme avec un visage humain. Donc la production artistique ne s'est pas interrompue à ce moment-là. En 69 et en 70, c'était peut-être la période la plus productive, en fait. Et puis, lentement, je dirais, sous la pression de notre bureaucratie, mais aussi du président Tito lui-même, peut-être. Bien sûr, ceux qui avaient commencé sa carrière étaient au sein du Comintern. Donc la pression sur la production artistique de la part des plus dogmatiques a commencé à devenir de plus en plus forte. Et certains des films qui avaient déjà été achevés et promus et qui avaient déjà reçu des prix et qui avaient été bien diffusés ont commencé à rencontrer des difficultés avec la bureaucratie. Des films qui ont subi des critiques idéologiques très fortes. Et donc mon film, Travaux précoces, qui a été filmé à l'automne 68, il attendait d'être diffusé. Et quand il a été diffusé, il a été beaucoup vu un peu partout en Yougoslavie. Il a aussi été dans plusieurs festivals étrangers. Il a été aussi montré en France. Il a donc gagné l'Ours d'Or à Berlin, mais aussi quelques prix en Yougoslavie. Et ensuite, le tribunal l'a interrompu, l'a interdit. Je dois avouer que la situation était encore suffisamment ouverte pour que je puisse défendre mon film au tribunal. J'ai été dans une discussion extrêmement tendue avec le procureur et le juge a été assez courageux pour suivre le texte de la loi, la lettre de la loi. Et donc, il a fini par autoriser à nouveau le film, à le libérer. Et il a dit au procureur, si vous craignez que cette simple œuvre artistique ruine notre pays, alors vous ne croyez pas assez dans notre système. Vous n'avez pas assez de foi dans notre système. Et il m'a dit à moi, vous, réalisateur, j'ai vu votre film, il est tellement ennuyeux que vous aurez beaucoup de mal à gagner votre vie si vous continuez à faire des films. Mais vous voyez, en dépit de cette confrontation-là, j'ai quand même été sorti du Parti communiste. J'étais un membre du Parti communiste, comme 95% des autres réalisateurs. Et une nouvelle vague de critiques qui mettait de côté toutes ces réussites artistiques des 10, 15, 20 meilleurs films de tous ces réalisateurs antérieurs dont j'avais parlé, mais aussi moi, j'étais sur la liste. Ces films étaient maintenant décrits par les politiciens comme des films qui observaient la réalité avec des lunettes noires. Et c'est un discours qu'on a entendu de la part des politiques et c'est pour ça en fait qu'on s'est retrouvé nommé, qualifié de Black Wave, de vague noire, parce que nous disions juste que nous étions la nouvelle vague yougoslave, mais ce sont eux qui ont trouvé ce qualificatif. Et donc l'atmosphère était tellement tendue, tellement fermée qu'il n'y avait pas un seul article qui sorte auquel on puisse répondre sans qu'il n'y ait de l'absurdité en fait dans ces accusations. Nous n'étions que des réalisateurs qui faisions des œuvres artistiques. Nous parlions d'amour, de mort. C'est ça le sujet de l'art. Et donc à ce moment-là, je faisais un documentaire tout simple et encore une fois tout un papier sur mon travail. Et donc j'ai dit, on arrête, allons boire un café,
the dark and
attends donc qu'il fasse nuit. Et donc, mon scout, mon assistant, etc., je leur ai demandé, dites-moi s'il y a des SDF là dans la rue, essayez d'en trouver. Ils en ont trouvé 6 ou 7. Et on a fait ce film qui est plus un happening qu'un film, en fait. Je n'ai pas informé la famille, ça a été un choc aussi pour eux.
Black film.
Et j'ai nommé ce film Black Film, juste en fait pour montrer à quel point c'était absurde.
My strength is strong and it lasts as long
ma force
as my negative
ne dure
is in our hand.
Mm. When we go que tant out que our j'ai mes négatifs entre les mains, en fait. Une fois que mes négatifs ne sont plus entre mes mains, je suis obligée de dire que ça y est, la fête est finie. Et donc, quand le film est sorti 2 mois plus tard, il a été détesté par tous, par les politiciens qui ont dit maintenant ils se moquent de nous. J'ai dit, mais non, je ne me moque pas de vous. Ils ont dit, ah, Bezinnik est vraiment maintenant, il fait l'humaniste, le faux humaniste, en accueillant 5 personnes. Et moi, je dis, mais oui, bah, vous, vous êtes dans les villages, vous avez de la place, pourquoi est-ce que vous n'accueillez pas 50 personnes pendant 3 ou 4 mois? J'allais tous les jours à la radio. Vous allez tous les jours à la radio et en vous prétendant les plus fervents partisans et les gens qui soutiennent nos populations pauvres. Alors faites ça. Et puis, je voulais que ce film, en termes de style, en termes de langue, contribue à élargir nos moyens d'expression, nos formes d'expression. Il a été très bien reçu au niveau international, dans les festivals internationaux. Et pour moi, c'était une expérience incroyable.
Half of the battle to make a good film in the United States, a free film, when I say good film, it's a free film, whether it's good or bad, we don't know.
Pour faire un bon film aux États-Unis, un film libre, je veux dire, on ne sait pas s'il est bon, nous y passerons une année sans salaire, simplement pour exprimer quelque chose. Nous n'en faisons pas un culte, pas une église. Si on ne s'amuse pas, on crève. Nous l'avons fait d'abord pour nous. Nous espérons qu'il plaira à d'autres, mais qu'ils l'achètent ou non, notre plaisir est de l'avoir fait. Nous ne le faisons pas pour la gloire ou une bonne critique dans les cahiers. Nous le faisons pour nous. Y a-t-il beaucoup de cinéastes comme toi ici? Non. Vraiment pas. C'est dommage, mais non. Sans m'ériger en modèle parfait, personne ne veut courir le risque. Tous disent, je veux le faire. Je veux le faire. Et ils le pourraient, mais ils ne le font pas. Pourquoi? C'est l'argent. Ils devraient se priver. Si nous faisons un mauvais film, nous aurons certes perdu notre temps, notre argent, nous serons endettés à vie, mais nous nous serons surtout ridiculisés à vie. Nous serons des ratés, des parias. Nous nous sommes risqués tout entiers. Nous assumons seuls ce que nous faisons. Si nous voulons rire au milieu d'une scène dramatique, nous rions. Nous pleurons si ça nous dit. Chez nous, pas de verre déformant, l'art du cinéma n'est pas dans la photo, mais dans le fait de capter les sentiments d'un peuple, d'un mode de vie. C'est ce que nous cherchons. De leur point de vue, notre film est infect. Ils appellent ça de la photo européenne. C'est une insulte ici aux États-Unis, comme le mot « art » qui est vraiment obscène.
Le grand blagueur et réalisateur John Cassavetes dans une archive de 1965 qui dit finalement un bon film, c'est un film libre où on se marre bien et on réussit à capter les sentiments. Au final, c'est ça que je veux faire, dit John Cassavetes. On parlait à l'instant avec vous, Jelly Mirjilnik, de ce film Travaux précoces, Early Works, qui est une sorte de promenade artistique, politique, amoureuse, érotique de jeunes gens. Comment on la qualifie? D'autres, je ne sais pas, je vais vous laisser vous débrouiller pour dire exactement ce que c'est que ce film. Mais en tout cas, c'est un film joyeux. C'est vraiment un film vivant. Et en écoutant Cassavetes, je me suis dit que probablement vous partagiez cette idée-là à ce moment-là, à la fin des années 60, de faire des films en s'amusant, en étant vivant.
À
ce moment-là, de réalisation partout dans le monde pour le cinéma, comme je le disais, c'était une période extrêmement intrigante et inspirante. Au-delà des réalisateurs français, bien sûr, nous aimions aussi beaucoup le nouveau film brésilien, Glauber Rocha et d'autres réalisateurs. Et ce qui était intéressant pour ma génération, qui a grandi après la rupture avec Staline, avec le système stalinien, c'est que ma génération a commencé à regarder les premiers films soviétiques comme ceux de Medvedkin ou d'autres réalisateurs. Elle a commencé à les regarder très tard, en fait. Donc ça a été pour nous aussi quelque chose de très stimulant de voir comment Medvedkin, par exemple, même dans ses tout premiers films, ne dissimulait pas d'être en train d'analyser cette nouvelle restructuration de la société, cet avènement du socialisme, du communisme, qui n'apportait pas que la liberté et l'humanité, mais qui rompait aussi avec beaucoup de traditions, d'anciens modes de vie, de modèles familiaux, de culture, de systèmes éducatifs. Donc c'était une façon aussi de transformer avec un effet extrêmement complexe sur les âmes, sur les esprits des gens, sur leurs souvenirs. Et donc après cette occupation de la Tchécoslovaquie,
En septembre-octobre
69, mon équipe et moi, ce que nous avions en tête, c'était des grands points d'interrogation. De quoi l'avenir va-t-il être fait? Quel est l'avenir du socialisme d'État? On dirait à ce moment-là que les principes fondamentaux ont été brisés avec cette occupation soviétique. Et donc on ne peut plus parler de solidarité de la classe ouvrière. On ne peut plus parler d'égalité entre les groupes ethniques et de liberté d'expression de chacun. Alors qu'il s'est passé ça et que les tanks sont venus saluer nos frères et chasser les politiciens les plus appréciés, ceux qui ouvraient réellement l'atmosphère et la société. Mais comme nous l'avons vu, nous avions vu cette énergie, une certaine énergie dans notre pays, une possibilité de se battre pour cette façon indépendante, cette approche indépendante de la construction du socialisme. Même dans la méthode, dans la façon dont nous faisions les films, on a combiné en quelque sorte toutes ces nouvelles manières de s'exprimer d'un point de vue artistique, toutes ces approches qui avaient été en quelque sorte posées sur la table pendant ces années-là. Le film underground américain, le cinéma underground américain, quand j'ai rassemblé mon équipe, j'ai dû sortir beaucoup de mes jeunes collègues des ciné-clubs parce que, en fait, la plupart des professionnels plus âgés ne voulaient pas travailler sur ce genre de scénario qui, pour eux, était trop construit. Il n'y avait pas le film narratif traditionnel avec les émotions, etc. Donc je suis allée chercher des gens, y compris Carpo Godin, qui est un ami vraiment de l'époque des ciné-globes. Et quand il m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire, ce que je lui ai répondu, c'est on va essayer de fabriquer quelque chose, d'imaginer quelque chose que personne n'a encore jamais essayé, n'a jamais imaginé.
Par exemple, Adolfa Smekas.
Par exemple, l'expérience Adolfa Smekas du film Underground mélangé avec Medvedkin. C'était ça l'idée, c'était le croisement de tout ça. Donc peut-être que ça nous a apporté une forme de fraîcheur, comme vous disiez, et en même temps aussi une certaine force dans notre façon de nous exprimer visuellement.
Si on s'attarde un petit peu sur ce film, il faut parler de la place du désir, de la rencontre amoureuse, du plaisir d'être ensemble, du plaisir très simple aussi d'être ensemble, d'être nu, de faire l'amour, d'être jeune. Et finalement, je trouve que c'est un film qui met ça exactement à la même hauteur que faire la révolution. Est-ce que vous seriez d'accord?
Yeah, that is a very interesting objection.
C'est très intéressant.
In my previous
comme commentaire, en fait, dans les années les années qui précédaient ce film-là, j'avais assisté aussi des collègues plus âgés sur des plus grosses productions. Donc j'avais vu très tôt que les équipes de cinéma, au moment où il fallait vraiment faire le film, au moment de la réalisation même, pouvait avoir une certaine créativité, mais que si l'équipe ne fonctionnait pas d'une manière qui lui permette de prendre ses distances avec toute forme de manipulation, alors la réalisation du film pouvait devenir quelque chose de très inconfortable, plein de tensions, et même de disputes et d'incompréhension. Et donc très tôt, une de mes idées a été de m'assurer que l'équipe soit unie et puisse réunir leurs forces créatives et que l'expression ne soit pas uniquement celle du scénariste et du réalisateur, mais aussi des personnes qui étaient devant la caméra. Et donc, à partir de là, je leur ai dit, maintenant, on ouvre les objectifs, les caméras, ça veut dire qu'on vous ouvre l'espace de communiquer avec le public à travers l'écran. Il ne s'agit pas de moi et je suis même cachée ici. Donc c'était vraiment une sorte de partenariat et j'ai continué à adopter cette méthode pour faire mes films.
Bien sûr, parce qu'en vous écoutant, je me dis finalement, même lorsque vous vous rapprochez davantage du documentaire, Jelimir Jilnik, on sent bien que vous invitez les personnes que vous filmez, personnes réelles, du monde réel, à être créatifs, à créer, à imaginer des situations, à peut-être imaginer des dialogues ou des moments, comme si au réel vous ajoutiez une sorte d'amusement ou de liberté offert par la fiction.
Well, also, documentary film was for me.
Eh bien aussi, le film documentaire pour moi, ça a été quelque chose qui, depuis le début de ma carrière dans le cinéma, a été une forme qui suivait le sens naturel, en fait, de ce que c'est que de filmer quelque chose, c'est-à-dire de toutes les formes artistiques. Ce n'est que quand on réalise un film qu'on saisit non seulement l'histoire, les personnages, les acteurs, mais aussi ce moment très précis de fonctionnement de la caméra, un moment où la caméra tourne. Donc ça veut dire que chaque film devient une sorte de part aussi intégrante de l'histoire. Par exemple, quand on voit Marlon Brando dans les premiers films d'Elia Kazan, par exemple, il ne s'agit pas que d'histoires d'amour à New York, de Marlon Brando et de ses histoires d'amour, mais c'est aussi une façon de montrer une ville, une culture et ce à quoi ça ressemble à ce moment-là. Les voitures et puis les modes de communication entre les gens. Donc les films de fiction aussi ont une dimension documentaire. Sans parler même des films documentaires.
I have so many examples.
J'ai énormément d'exemples.
This, small film about student demonstration, which we
Par exemple, ce petit film qu'on a fait sur les manifestations 68, étudiantes en juin 68 et qui ne fait que 10 minutes.
But somehow, it is the only real evidence
Mais en fait, il se trouve que c'est la seule preuve réelle qui reste de ce qui s'est passé dans les universités. Et encore aujourd'hui, beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de souvenirs des participants à ces événements-là, des gens qui entre-temps sont devenus des figures politiques majeures ou même des néo-capitalistes aujourd'hui. En fait, tout ce qu'ils disent, ces gens et ces récits sont des mensonges purs. On dit que les manifestations étudiantes étaient en faveur d'un système multiparti, prenaient leur distance avec le socialisme, ne voulaient pas mentionner l'héritage du marxisme, etc. Et en fait, c'était le contraire. Les étudiants demandaient à renommer l'université de Belgrade Université rouge de Karl Marx. Voilà ce qu'ils voulaient comme nom pour leur université. Il y avait tout un slogan là-dessus. Et bien sûr, les étudiants s'opposaient à la bourgeoisie rouge, en fait, à la bureaucratie. Et donc, en faisant ce documentaire, ces documentaires, j'ai aussi le sentiment que je tiens une sorte de journal personnel sur les années ou les décennies que j'ai traversées.
En vous écoutant parler, je me dis, si on remonte la bobine un tout petit peu plus loin et qu'on rappelle que vous êtes né au milieu, on peut pas faire plus au milieu de l'extrême violence de la Seconde Guerre mondiale en 1942, je me demande dans quelle mesure ce choix de la caméra, ce choix du cinéma, est un choix qui a à voir avec justement le témoignage et la mémoire.
Well, of course, I remember.
Bien sûr, je me souviens que ce n'est que quand j'ai commencé à aller à l'école, à 6 ans, 7 ans. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont mes premiers souvenirs. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une pauvreté extrême. Le pays était si détruit, brisé, dévasté que nous, les enfants, on allait à l'école en sabots de bois. Et les vestes et les pantalons que nous portions étaient faits avec des vieilles couvertures, des vieux draps. Donc c'était cette époque où la Yougoslavie est née, a émergé après l'occupation, non seulement des Allemands, mais aussi des forces fascistes hongroises, roumaines et bulgares et italiennes. Dans ma salle de classe, je me souviens qu'une fois par an, l'enseignant, l'instituteur demandait aux enfants ceux dont les parents sont morts pendant la guerre, levez-vous. Et la moitié des élèves se levaient. Je ne sais même pas pourquoi ils posaient cette question-là, mais j'imagine qu'ils essayaient à ce moment-là d'éviter que des enseignants d'origine allemande, peut-être, se retrouvent face à ces élèves-là. Donc, ma situation n'était pas unique. Et ce qu'on a vu dans les 5, 10, 15 ans qui ont suivi, c'est que la situation du pays s'améliorait.
Le
mode de vie s'améliorait. La frontière a commencé à s'ouvrir à partir de 1965. Les frontières ont commencé à être ouvertes. Même les chômeurs pouvaient aller trouver du travail en Europe occidentale. Donc c'était différent des autres pays socialistes.
Et cette dernière
possibilité que j'ai utilisée moi-même jusqu'à ce qu'en 72-73 je ne puisse plus faire de films en Yougoslavie, et c'est à ce moment-là que je suis allée en Allemagne.
France Culture.
France Culture.
Par les temps qui courent.
Par le temps qui court.
Marie Lecheux.
Marie Lecheux.
Avec.
Avec Jérémy Gilles.
Donc encore un extrait de votre film Travaux précoces. Et je rappelle qu'il a reçu l'Ours d'or à la Berlinale en 1969, Jelimir Jelinek. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux, trois mots ce que dit cette chanson-là et comment vous utilisez les chansons dans Travaux précoces, parce qu'il y en a et elles sont importantes, et dans vos autres films ?
J'ai demandé à mon collaborateur qui choisissait la musique d'aller à sur Radio Belgrade et de trouver des vieilles chansons, des chansons qui célébraient à la gloire du parti et qui n'étaient plus diffusées. Nous voulions aussi dans ce film, comme je le disais, avoir une forme de réflexion sur cette nouvelle vague de réflexion staliniste qui était liée à cette occupation de la Tchécoslovaquie, tout ce qui s'était produit après. Et je me suis dit que des réalisateurs comme Parolas devraient... En fait, je me disais que les chansons devraient être vraiment des apartés musicaux. Et donc, il y a quelques chansons traditionnelles dans ce film, plusieurs, et en fait, quand on les a mixées dans le film, intégrées dans le film, elles ont été comprises comme une sorte de remarque un peu ironique, de façon de faire un commentaire ironique.
Est-ce que vous diriez la même chose pour la chanson d'amour ? Would you say the same thing for the love song ? Est-ce que vous diriez que cette chanson qui dit « Je suis prêt à mourir pour cet amour, je peux mourir pour ces lèvres roses rouges », est-ce que c'est une manière ironique ou est-ce que c'est aussi une manière de dire finalement les sentiments humains, ce que c'est qu'aimer une femme ou ce que c'est qu'aimer un homme ? Eh bien, peut-être c'est pour ça que je suis prêt à mourir.
Comme vous l'avez vu dans le film, à la toute fin, c'est très émotionnel, un moment extrêmement émotionnel. C'est un adieu, en fait, au grand espoir, à la grande passion, au grand amour, au rêve. Et malheureusement, il semble que tout cela doive simplement s'évanouir et disparaître, être dispersé. Et donc, les dernières chansons, et c'est très bien que vous me posiez la question, en fait, les deux dernières chansons sont toutes les deux romantiques, parlent d'amour. Il y en a une qui parle de quitter le groupe, et la dernière... sur la scène finale du film, quand ils finissent par faire ce travail de liquidation et par tuer la jeune fille. Ça veut dire en fait que les idées pour lesquelles nous étions engagés, dans lesquelles nous croyons, nous n'avons pas été capables d'être à la hauteur de ce qu'elle méritait.
On sent bien, Jenir Jimnik, qu'en décrivant cette dernière scène où en effet cette femme qui s'appelait Yougoslavia est purement et simplement assassinée, et puis la question du sacrifice de la jeunesse et du sacrifice des idées est clairement posée dans Travaux précoces, on sent bien votre émotion 50 ans exactement plus tard. Et je pense au court-métrage que vous avez réalisé à la demande du Centre Pompidou qui pose la question « Où en êtes-vous, Jelimir Jelinik ?» Et puis il y a une personne qui appartenait à une ancienne équipe d'un autre film qui était censuré et qui dit « Au final, Jelimir, est-ce qu'il ne faut pas dégager tout ça, la politique, la révolution, l'idéologie, et puis mettre des belles femmes nues avec de la musique, ça marche toujours. » C'est une blague et en même temps, ça dit aussi le regard d'homme 50 ans plus tard, sur la vie qu'ils ont eue.
Cette situation que vous décrivez, évidemment, s'est produite des années après. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à quelque chose que nous ne connaissions pas ou auquel nous ne pensions pas il y a seulement 3 ou 4 mois. Le film que nous avons commencé juste après Travaux précoces, donc il y a 46 ans, a été interrompu au moment du montage. On a été interrompu de façon très brutale dans ce travail et les négatifs avaient disparu. Et donc pendant un an ou deux, on s'est dit d'abord que la situation allait changer, qu'on allait trouver le moyen de faire ce film, mais la situation n'a pas changé et c'est le moment où j'ai décidé de quitter ce pays et d'aller travailler à l'étranger. Aujourd'hui, il... Sorti de nulle part, ce film est réapparu. J'ai été informé par des employés de la Cinémathèque. Vos vieux négatifs ont été retrouvés. Qu'est-ce que c'est que ces films, ces pellicules? Est-ce que vous voulez les récupérer? Donc j'ai appelé mes anciens collaborateurs. Et nous étions complètement perdus, d'abord extrêmement inquiets que la pellicule ait été complètement décolorée, effacée, détruite. Et en fait, on a constaté que le matériau, la pellicule, avait survécu à la moitié d'un siècle. Donc notre crainte initiale a été transformée. C'est transformé en une nouvelle ère de production, en fait, puisqu'aujourd'hui tout est numérique et on ne pensait pas, en fait, que ça puisse rester en bon état pendant tout ce temps-là. L'autre question, c'était est-ce que ce film pouvait être reconstitué ? Un tiers des matériaux, des roches n'existent pas, en tout cas, étaient peut-être perdus. On a essayé de contacter plusieurs participants, beaucoup d'entre eux sont morts, mais d'autres ont accepté de se retrouver et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire chercher comment enquêter sur l'impact en fait de ces 50 dernières années sur le destin de ces gens et sur leur personnalité. Mais bien sûr, c'est aussi très complexe, nous n'avons toujours pas de financement, donc notre compositeur a dit peut-être que la meilleure manière de faire, c'est encore de se débarrasser de toute la dimension historique et politique et de transformation sociale. Nous devrions peut-être prendre les matériaux les plus expressifs parmi tout ce que nous avons. L'homme qui était le caméraman était le même que sur Travaux précoces. Quelqu'un qui fait des plans vraiment excellents.
Mais si vous me posez la question,
je ne pense pas qu'on va s'y prendre comme ça. Je pense qu'il faudrait que nous essayions, que nous allons essayer de partir des situations des protagonistes, des événements de leur vie, parce qu'il y a tellement d'absurdité et parfois c'est tellement tragicomique. Par exemple, un groupe de personnes qui étaient dans le film,
qui s'appelle donc, je précise juste, Liberté aux bandes dessinées, en français en tout cas.
Donc il y a ce moment où ces personnes qui soutenaient la révolution culturelle de Mao Tse-tung, pour la plupart d'entre eux, et dont certains avaient d'ailleurs été aussi poursuivis pour ces raisons-là. Ces 15 dernières années sont devenus des membres des nouveaux gouvernements slovènes, croates et serbes. Et il y en a même un qui est ambassadeur auprès de l'OTAN.
Et ça vous fait bien marrer.
Le cinéma est aussi une rêverie et les gens investissent ce qu'eux-mêmes ont appris par leur structure, par leur matériel mental fait qu'ils arrivent à un film, ils plaquent dans le film leur propre matériel, leur propre grille. Et ça donne des interprétations diverses. Donc nous, cinéastes, c'est formidable. Moi, je trouve formidable à l'écoute des gens. C'est un jeu de miroir, vous comprenez. Il me revient des différentes interprétations de la même image. À moi de décider si j'impose mon interprétation ou si je fais avec cette espèce de vibration d'interprétation qui transforme un film fini. Un film fini, c'est plus à moi, c'est un objet film. Bon, cet objet film, il devient un test, comme ça. Et les spectateurs ou les gens que je connais réagissent à ce test.
Oh,
La fameuse chanson d'amour que j'évoquais tout à l'heure, Jelimir Jilnik, et qui fait partie de la bande originale de Early Works, Travaux précoces, et juste avant, la voix d'Agnès Varda, réalisatrice française en 1978, au micro de Jean Dev sur France Culture, et qui vient de mourir et qui présente le cinéma comme un miroir. Finalement, ce que je fais, c'est des films, c'est des tests, et puis je les jette comme ça au public, et il y a quelque chose qui me revient dans les interprétations, dans la manière dont ils sont reçus. Vous, ça fait des années, Jelimir Jilnik, que vous discutez de vos films. Là, par exemple, au Centre Pompidou à Paris, vous allez faire des masterclass. Dans le film que vous faites pour le Centre Pompidou, où en êtes-vous, Jelimir Jilnik, vous filmez vous-même en train d'animer des masterclass. Bref, vous parlez volontiers de votre cinéma. Est-ce que dans la manière dont vos films sont regardés, dans les discussions que vous avez l'impression qu'on vous tend aussi un miroir? Et est-ce que ce miroir, il est personnel, il est tendu vers vous, en tant qu'artiste, en tant qu'être, ou est-ce qu'il est aussi tendu, d'une certaine manière, vers l'époque?
Bien sûr, pendant tout le temps j'ai continué à faire des films, j'ai développé beaucoup d'aspects de ma méthodologie, de mon approche.
Ces 30 dernières années,
on n'utilise plus forcément de pellicule, on a la possibilité de filmer des matériaux de façon beaucoup plus quantitative. En fait, on en fait beaucoup plus, on filme beaucoup plus de matériaux. Et donc, pour certains films, on commence aussi parfois par un échange sur le sujet qui suscite notre curiosité avec les personnes qui sont directement concernés par certains aspects économiques ou politiques, par exemple, dans le monde post-socialiste et dans les économies post-socialistes. Un des principaux, la plus grande surprise, en fait, la plus grosse surprise, d'une certaine manière, mais aussi en même temps, la conséquence la plus inhumaine, en fait, je parle là des anciens pays ex-yougoslaves et de la Serbie, c'est le fait, en fait, que notre système fondé sur ces usines, manufactures autogérées, où le propriétaire n'était pas l'État, mais où chaque ouvrier, vraiment, chaque employé avait un droit à être considéré comme un des propriétaires. Il y avait aussi donc la possibilité d'investir une partie de son salaire pour renouveler, par exemple, des technologies, des techniques dans ses usines et d'en tirer des rentes, mais des revenus. Mais quand le communisme s'est effondré, ces systèmes ont pillé, en fait, les nouveaux systèmes ont pillé, en fait, la classe ouvrière, les ressources de la classe ouvrière. Ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux cas, les usines qui étaient extrêmement productives et qui faisaient des bien des denrées de qualité, des marchandises de qualité, ont été détruites ou ont été vendues à des grosses entreprises occidentales. Donc on a cette situation dans le monde post-communiste qui est très différente, complètement l'opposée du monde communiste, puisque la bourgeoisie qui était censée être l'ennemi de classe, maintenant il y a cette néo-bourgeoisie
qui est, dans beaucoup de cas, personne d'autre
qui est la plupart du temps, en fait, l'ancienne bureaucratie communiste, cette bourgeoisie rouge que les étudiants combattaient à l'époque, eh bien, ils ont gagné. Ils se sont transformés en système capitaliste. Et en fait, c'est l'ex-classe ouvrière qui se retrouve ennemie de classe. Et donc, faire un film sur une question aussi compliquée, ce que j'ai fait pour ça, c'est que, avec mon équipe, nous avons commencé par organiser le tournage du documentaire dans des usines qui sont occupées par les ouvriers qui se battent pour obtenir les documents qui attestent de leurs actions, de leur part de la propriété, du capital de l'usine. Beaucoup d'usines ont été occupées dans ma région. Et donc nous sommes allés dans ces usines, on est venu avec une caméra, on a dit voilà, on fait un documentaire. Et donc on a fait un certain nombre en fait de documentaires qui les ont aidés à se battre pour voir leurs droits reconnus.
Et
certains d'entre eux ont aussi participé à des élections et ont même gagné des sièges au Parlement. Donc quand tout ça a été terminé, nous avions peut-être 5 ou 6 films à la fin.
Et
on s'est dit, on va passer à autre chose, à un autre sujet. Mais là, l'initiative est venue de ces mêmes personnes qui m'ont dit, non, on n'a pas tout dit. Ces lumières, en fait. On n'a pas montré d'autres aspects de cette situation. Nous n'avons pas mis en évidence les gens qui nous ont volés. Est-ce qu'on peut aussi faire un film là-dessus? Et je leur ai dit, mais ça, c'est un film de fiction que vous voulez faire. Et ils ont dit, effectivement, on veut faire un film de fiction avec toi. Et donc, on a fait ce film de fiction qui s'appelle donc, Le capitalisme old school, à l'ancienne, qui a eu énormément d'échos, non seulement en Serbie, mais aussi dans tous les autres pays ex-yougoslaves et aussi à l'étranger. Donc, c'est au travers de cet échange avec les participants qui, d'ailleurs, se poursuit encore aujourd'hui.
Un grand merci, Jelmir Jelinek. Je vous ai fait terminer très vite parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais peut-être qu'on vous entendra vous présenter nombreuses, voire toutes, je crois, séances lors de cette rétrospective au Centre Pompidou jusqu'au 12 mai prochain, et ainsi qu'une masterclass. Merci beaucoup. Et merci à vous, Marguerite Capel. الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربار في ربار والحياة والنجاة والأناء والرجاء في هوار في هوار. Est-ce encore une chanson qu'on peut entendre dans votre film The Most Beautiful Country in the World? C'est l'hymne irakien chanté par une chorale qui le conclut à la prise de son aujourd'hui. C'était Jacques Hubert à la réalisation, Perret Legras. Un grand merci à Romain de Bec de Lièvre, Valentin Rémy, Marianne Chasseur et Jeanne Aléos qui m'aident à composer, penser, préparer cette émission tous les jours. FranceCulture.fr à la page de Par les temps qui courent pour toutes les informations et le podcast. Et France Culture tout de suite pour le journal. À demain. Ashaba,